Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Agnès Buzyn.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés pour vous interroger, Alexis Brézé du Figaro.
Bonjour.
Bonjour Alexis.
Bonjour.
Brézé. J'aurais dû commencer par Amélie Carouer, bien sûr, de TF1 LCI. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis cette semaine, une nouveauté dans le grand jury à l'occasion du festival de la BD d'Angoulême. Nous recevrons un dessinateur de renom, Jules, et il croquera l'actualité du jour et vous adressera, Madame la Ministre, deux questions. Et bien sûr, question nette, vous y êtes habituée avec Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL. Réagissez en direct sur les réseaux sociaux comme d'habitude, hashtag le grand jury, et nous poserons les questions, vos questions à la ministre en fin d'émission. Alors Agnès Buzyn, en tant que ministre de la Santé et des Solidarités, vous étiez déjà en première ligne sur deux dossiers qui inquiètent une bonne partie des Français, mobilisent la rue et qui nourrissent les oppositions. La réforme des retraites, tout d'abord, qui vient de recevoir un avis sévère du Conseil d'État, de quoi donner du carburant à ceux qui n'en veulent toujours pas et qui continuent de manifester. Nous en parlerons, bien sûr. Et puis, la crise dans les hôpitaux qui n'en finit pas. Votre dernier plan n'a pas convaincu le personnel soignant qui exige, entre autres, plus de moyens et une augmentation des salaires. Ce sera aussi l'un des thèmes de cette émission. Alors cet agenda chargé vous laissera-t-il du temps pour vous engager dans la campagne parisienne pour soutenir le candidat officiel de La République En Marche, Benjamin Griveaux? Vous nous le direz aussi dans ce grand jury. D'autant que vient de s'ajouter à vos sujets la gestion d'une crise sanitaire, celle du coronavirus venant de Chine qui sème la panique là-bas et qui inquiète chez nous, la crainte donc d'une épidémie, thème qui inspirera certainement notre dessinateur qui est sur ce plateau, Jules. C'est le premier sujet bien sûr que nous ouvrons et la première question vous est posée donc par Amélie Carouer.
Bonjour Madame la Ministre.
Bonjour.
De nouveaux cas avérés de coronavirus vont-ils être annoncés, révélés, combien et où ?
Écoutez, c'est probable, c'est possible, en tous les cas il y a aujourd'hui des cas qui sont testé, puisque nous avons choisi de communiquer uniquement lorsqu'il y a des cas avérés. Et on voit bien que maintenant, l'épidémie s'étend à 13 pays. Il y a 45 cas qui ont été, hier en tous les cas, évalués comme positifs en dehors de la Chine. Et donc, nous voyons bien que cette épidémie risque de s'étendre dans les jours ou dans les semaines
sur qui viennent. Sur les cas avérés, on est toujours à 3, pardon.
Aujourd'hui, les cas avérés sont de 3 personnes et il y a quelques personnes qui sont testées aujourd'hui dont j'aurai les résultats en fin de journée.
Donc de nouveaux cas pourraient être dévoilés dans les prochaines heures en
bien,
France.
C'est possible.
Et vous savez où sur le territoire, vous pouvez nous le dire ?
Non, je le dirai lorsque j'aurai les cas avérés. Je ne préfère ne pas mener d'enquête avant parce qu'en réalité, il y a en même temps le virus de la grippe qui circule et donc il y a beaucoup de fausses informations qui circulent avec des gens malades qui reviennent de Chine mais qui ont la grippe.
À quel moment aujourd'hui, passe-t-on au stade d'épidémie, épidémique ?
Aujourd'hui, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui définit les niveaux d'alerte, différents niveaux d'alerte mondial. Et donc, aujourd'hui, la dernière réunion de l'Organisation mondiale de la santé qui s'est terminée vendredi a choisi de ne pas monter le niveau d'alerte en épidémie mondiale qui nécessiterait de prendre des mesures comme moins de voyages entre les pays. Mmh. Pour autant, l'Organisation mondiale de la santé a diffusé des recommandations de prise en charge hier, qui sont parvenues à toutes les autorités sanitaires hier soir. Des recommandations surtout visant le départ des personnes venant de zones épidémiques, donc demandant aux pays touchés, notamment la Chine, de mettre des mesures d'évaluation du risque aux frontières avant le départ des voyageurs.
Alors on va y venir, mais pour rester en France, on parle aussi de malades sans symptômes, asymptomatiques. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que vous en avez eu connaissance à ce jour ?
Alors, c'est ce qui apparaît de ce que nous donnent les autorités chinoises comme information, c'est qu'il y a possiblement des personnes qui portent le virus sans développer de maladie.
Et du coup, peuvent en contaminer d'autres sans le savoir.
Bien sûr, c'est ce qu'on a avec la grippe chaque année. Nous savons que beaucoup de gens peuvent porter le virus de la grippe sans avoir de symptômes. Et donc, il est probable, en tous les cas, c'est ce que disent les autorités chinoises, qu'il y a possiblement des cas asymptomatiques. Aujourd'hui, nous n'en avons avons pas connaissance en France, puisque nous n'avons pas testé très largement la population, ni en Europe d'ailleurs, puisque l'Europe n'a pas encore identifié d'autres cas.
Trois cas avérés en France, des personnes qui ont été en contact, des cas contacts, on a compris que c'était l'expression utilisée avec ces malades. Combien de personnes sont potentiellement sous surveillance aujourd'hui en France ?
Une dizaine à qui nous avons demandé de se surveiller. Il y a différents niveaux de contact. Quand vous croisez quelqu'un dans la rue, le risque d'attraper le virus est faible. Par contre, quand vous passez 3 heures dans la même pièce à discuter, le risque est fort. Et donc, le niveau de précaution qu'on propose s'applique essentiellement aux gens qui ont passé du temps avec la personne malade. Et donc, nous leur demandons de rester chez eux par précaution pour éviter de contaminer d'autres personnes. Et éventuellement, s'ils sont en contact avec leur famille, de mettre un masque qui évite la contamination.
Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a une augmentation des arrivées aux urgences ?
Les consignes sont bien passées. Je crois que les Français ont compris que le risque était celui de personnes qui revenaient de Chine et qui présentaient des symptômes respiratoires ou de la fièvre, et que les consignes sont très bien passées. Quand on revient d'un voyage en Chine et qu'on a des symptômes, on appelle le centre 15, de façon à ce qu'il y ait des conseils et que les personnes soient... qu'on vienne les chercher chez elles.
Donc, ne se précipite pas aux urgences.
Surtout pas. Et je remarque d'ailleurs que les centres 15 reçoivent un peu plus d'appels de personnes venant de Chine ou de personnes inquiètes, mais qu'il n'y a pas du tout d'afflux aux urgences. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Mmh. Il ne faut pas aller dans des lieux où il y a beaucoup de monde qui attend, et pour éviter de contaminer d'autres personnes.
C'est les trois malades dont vous nous avez parlé, comment vont-ils ? De au-delà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la dangerosité et de la mortalité de ce virus ?
Alors aujourd'hui, les trois malades restent sous surveillance, hein, puisqu'ils ne sont pas encore guéris. Donc tant qu'ils ne sont pas guéris, eh bien, ils restent à l'hôpital en isolement. Et donc ils sont surveillés dans des services hospitaliers. Voilà, on attend qu'ils soient guéris pour les laisser partir. Pas d'autres informations que la surveillance continue. Et concernant la dangerosité du virus, donc, nous apprenons au fur et à mesure, je dirais jour après jour. Je rappelle quand même que l'épidémie et l'alerte mondiale, entre guillemets, a vraiment commencé début janvier avec la notion d'un nouveau virus qui émergeait. La Chine a tiré la sonnette d'alarme le 31 décembre. Alerte mondiale début janvier. Découverte du virus et séquençage du virus vers le 14 ou le 16 janvier, ce qui a permis notamment en France de réaliser un test spécifique pour ce virus en moins d'une semaine. Donc en moins d'une semaine, sur la base des informations, nous avons été capables
aujourd'hui, de détecter. Aujourd'hui,
on a ce test. On a ce test depuis le 20 janvier. Mmh. Donc, depuis le 20 janvier, en France, nous sommes capables de réaliser le test dès qu'il y a une suspicion de cas.
Et donc
cas.
On peut dire à quelqu'un tout de suite ou dans les...
Dans la journée, puisqu'il faut que le prélèvement de sang, c'est ce que nous avons fait, arrive de l'hôpital où est pris en charge la personne, jusqu'au centre de référence à l'Institut Pasteur. Mais maintenant, ce test va être disponible dans les grands hôpitaux à partir de la semaine prochaine. Juste par rapport à la dangerosité, et pour répondre vraiment à votre question, le sentiment que nous avions donc, au tout début de l'épidémie, c'est qu'il y avait un risque de mortalité élevé, moins élevé que pour le SRAS en 2003, qui était un risque de 10%. Plus nous découvrons de cas et plus les Chinois communiquent sur le nombre de cas, plus nous réalisons en fait que cette mortalité est beaucoup moins importante que ce que l'on craignait en début de semaine. Donc la mortalité a l'air de diminuer. Par contre, la contagiosité a l'air d'augmenter.
Ah, la contagiosité augmente.
Oui, en gros, il y a deux modèles. Il y a des modèles d'épidémie virale peu contagieuse mais très mortelle. C'est le MERS-CoV ou le SRAS, avec 30% de mortalité ou 10% de mortalité pour ces deux premiers virus. Et au contraire, des modèles d'épidémie très contagieux et peu mortels comme la grippe. Et donc la question que nous nous posons depuis une semaine, et ce sont des analyses qui sont faites en temps réel par les experts, c'est de savoir si nous sommes plutôt sur un modèle de gravité peu contagieux ou un modèle très contagieux, moins grave. Et il semblerait que nous nous rapprochions vers un modèle très contagieux, mais moins grave que ce que nous pensions ou craignions au départ.
L'autre question, Madame la Ministre, c'est de savoir si le virus peut muter. Est-ce que ça peut être le cas ? Et dans ce cas-là, comment vous prévoyez cela ?
Alors aujourd'hui, justement, les autorités chinoises ont communiqué sur le fait que le virus n'a pas muté. Un virus peut toujours muter, mais pour l'instant, il n'a pas muté. Par contre, il se développe puisque le nombre de cas augmente de façon exponentielle en Chine. En tous les cas, le nombre de cas détectés, ça ne veut pas dire que le nombre de cas réels augmente, mais entre lundi où nous étions autour de 200 cas et aujourd'hui où nous sommes à 2000 cas, soit les autorités chinoises sont plus efficaces pour détecter les malades et faire le test, soit le nombre de cas est réellement en augmentation. Et ça, il n'y a que l'avenir qui nous dira la réalité de cette contagiosité qui a l'air importante.
Agnès Buzyn, est-ce que vous n'avez pas sous-estimé au début le risque d'importation de ce virus ? Vous disiez vous-même, il est modéré ce risque d'importation, il est maintenant pratiquement nul. Est-ce qu'aujourd'hui, bien, le fait est c'est qu'il y a une importation de ce virus et peut-être que le principe de précaution n'a pas suffisamment été appliqué ?
En réalité, mes propos ne reflètent que les annonces de l'Organisation mondiale de la santé. Moi, je ne répertorie que ce que disent les experts internationaux qui sont en charge de travailler sur les crises sanitaires mondiales.
Donc l'OMS a sous-estimé peut-être.
Non, pas du tout. Elle a dit au jour d'aujourd'hui, et d'ailleurs, si vous reprenez mes propos exacts, j'ai dit aujourd'hui, c'était lundi ou mardi, le risque est faible. Je crois que mercredi ou jeudi, j'ai dû dire qu'il était modéré parce que les experts avaient l'air de changer leur modèle et on avait aussi plus d'informations de Chine. Il faut vous rendre compte que nous sommes en train de gérer une crise qui a évolué en l'espace d'une semaine. Donc, moi, je ne dis qu'une seule chose. Nous nous adaptons jour après jour aux informations qui arrivent sur la connaissance du virus, sur les cas en Chine et sur les informations données par l'Organisation mondiale de la santé.
Madame la ministre, si ça évolue, est-ce que l'Organisation mondiale de la santé peut, dans les prochaines heures, finalement aller vers cette déclaration d'urgence sanitaire ?
Tout à fait, et je pense qu'elle va se réunir de nouveau, probablement. Je n'ai pas l'information puisqu'ils n'ont pas fait d'annonce.
Est-ce que vous souhaitez qu'elle lance, qu'elle déclare l'urgence sanitaire, l'OMS ?
Moi, je souhaite en tous les cas qu'elle ait des réunions régulières pour évaluer le risque. Et de toute façon, la France n'attend pas les recommandations. D'ailleurs, nous avons prévenu tous les professionnels de santé français par une information, ce qu'on appelle le DGS urgent, un mail qui est envoyé à 800 000 professionnels dès la semaine dernière, avant même, c'était je crois le 14 juin. Janvier pour la première information faite aux professionnels sur le fait qu'il y avait une épidémie en Chine. Nous avons ensuite défini à quoi pouvait ressembler le cas, quels étaient les symptômes. Nous avons réadressé des courriers à tous les professionnels, y compris évidemment aux hôpitaux, aux SAMU bien entendu, mais tout le monde est informé régulièrement. C'est la troisième information que nous faisons aux professionnels de santé qui donne les conduites à tenir.
Tout le monde s'interroge aussi sur des choses très concrètes qui pourraient être faites. D'une part, dans les aéroports parisiens. Pourquoi n'organisez-vous pas des prises de température systématique des voyageurs arrivant ? Et disposons-nous, Madame Buzyn, de portiques de prise de température, comme c'est le cas en Chine ?
Alors, nous préférons, et c'est un choix non seulement français, mais un choix préconisé par les experts européens. Il se trouve que c'est aussi le choix des experts de l'OMS dans leurs recommandations qui sont arrivées hier. Nous préférons avoir des équipes médicales qui attendent les voyageurs et peuvent donner des conseils personnalisés.
C'est facultatif. Les gens qui se présentent à eux.
Non, nous sommes aux entrées des avions et tous les voyageurs qui arrivent de Chine aujourd'hui ont une information à leur sortie de l'avion. Parce que, en réalité, tous les experts s'accordent à dire que c'est une fausse sécurité, que c'est un symbole. Ça plaît à la population, je suis obligée de le dire comme ça, parce que symboliquement, ils ont l'impression qu'on prend une sécurité. Et en réalité, ça ne sert à rien, puisqu'il suffit d'avoir pris un peu d'aspirine dans l'avion parce qu'on ne se sent pas très bien pour ne pas avoir de fièvre. Il y a pas de personnel soignant autour de ces portiques, donc parfois ça sonne, parfois le personnel de l'aéroport le repère, ne le repère pas,
mais
la
personne
de côté.
Nous
n'avons pas les portiques, nous avons de la prise de température.
D'accord.
Au fond, c'est une sorte de une autre technique. Mais en l'occurrence, l'OMS ne recommande pas cette technique.
D'accord.
Elle considère aujourd'hui qu'elle est facultative, mais qu'elle n'est pas la plus appropriée. La plus appropriée, c'est ce que nous avons fait depuis la semaine dernière.
Oui.
La plus appropriée, c'est de donner une information aux patients qui sortent. Donc tous les vols de Wuhan ont eu cette information dans l'avion la semaine dernière.
Donc, c'est le berceau, si je puis dire, de la maladie.
Voilà, oui. Et nous donnons une information papier en trois langues qui permettent aux personnes qui arrivent de Wuhan de savoir exactement comment se surveiller et quelle est la conduite à tenir, parce qu'en réalité, les gens peuvent arriver très bien portants et être malade. La preuve, les trois malades que nous avons contactés en France n'auraient pas été repérés par la prise de température. Ils sont arrivés sans fièvre et ont développé la maladie plus tard.
Faut-il interrompre les vols provenant de Chine ?
Alors justement, c'est ce type de décision sont prises par l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, la décision, et je suis en contact permanent avec la commissaire européenne à la santé, je suis en contact permanent avec mes homologues européens. J'ai eu plusieurs fois
la
le
France
ministre...
La France ne peut pas le faire unilatéralement, qu'on comprenne bien.
En fait, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que si nous n'avons pas une action européenne concertée, vous allez avoir des vols interdits à Roissy-Charles de Gaulle qui vont arriver à Bruxelles et les gens vont arriver
est-ce
sur le territoire de Bruxelles.
Est-ce que vous souhaitez cette interdiction est-ce que la France le souhaite?
Non, aujourd'hui, nous n'avons pas pris cette décision, mais je le répète, dans une épidémie avec un nouveau virus, nous évaluons le risque jour après jour. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de décision d'interdire les vols de Chine. Par contre, tous les passagers qui arrivent de Chine reçoivent un papier à leur sortie de l'avion et une information dans l'avion leur disant exactement la conduite à tenir en cas de symptômes. Et ça, c'est la recommandation
demain,
de l'Organisation mondiale de la santé.
Interdit,
ça, c'est une décision internationale. Ça n'a pas de sens pour la France, en tout cas pour un pays européen, d'avoir une interdiction isolée parce que les gens vont arriver via Barcelone ou via Bruxelles. Donc, nous sommes obligés d'avoir une action concertée en Europe.
Madame la ministre, parmi les actions dont on a entendu parler ces dernières heures, l'annulation des festivités Nouvel An chinois à Paris, vous nous le confirmez peut-être. Plusieurs questions. Pourquoi ne pas l'avoir décidé plus tôt? Qu'est-ce qui fait que là, ces dernières heures, on se dit qu'il faut les annuler? Y a-t-il d'autres événements de ce type que vous allez annuler dans les prochaines heures?
Alors, aujourd'hui, ça n'est pas une recommandation du ministère de la Santé. D'abord parce que le Nouvel An chinois est une festivité qui ne concerne pas que les Chinois. Il y a énormément de nos concitoyens qui se rendent à ces festivités. Et aujourd'hui, nous ne recommandons pas, aujourd'hui, d'interdire des événements et des rassemblements.
Apparemment, ça y est, Anne Hidalgo a dit qu'on
aurait... Anne Hidalgo le fait, mais pas pour des raisons sanitaires. En tous les cas, pas pour des raisons sanitaires. Elle craint que les personnes aujourd'hui qui organisent ces festivités n'aient pas envie de faire la fête. En tous les cas, c'est...
C'est donc elle leur demande, en effet.
Elle leur demande,
donc, plus symbolique, vous dites qu'une mesure de santé publique.
Ça n'est pas, pour l'instant, une mesure de santé publique. Et si nous devons prendre des mesures de santé publique pour interdire des rassemblements, il y aura possiblement d'autres rassemblements interdits, mais pas juste le Nouvel An chinois auquel participent tous les concitoyens. L'objectif n'est pas de stigmatiser aujourd'hui une population.
Agnès Buzyn, concernant le port du masque, on voit que dans les pharmacies en Île-de-France, il y a une pénurie de masques vendus parce qu'il y a beaucoup de demandes. Est-ce que vous y voyez le signe d'une panique et que nous dites-vous sur l'utilité du port du masque?
Alors, le masque bleu, qu'on appelle le masque chirurgical, est utile uniquement lorsqu'on est malade pour éviter de contaminer les personnes autour. Donc c'est un masque qui en réalité ne se porte que si l'on est soi-même en train de tousser.
Mais on ne se protège pas.
Mais on ne se protège pas soi-même en portant ce masque bleu. Il n'apporte aucune protection. Donc ça n'est pas un masque qui sert à se protéger d'un virus. Ce que j'ai compris des ventes en pharmacie, c'est que ce sont en fait des personnes qui les achètent pour les envoyer en Chine. Donc, moi je le dis, il n'y a aucune aujourd'hui indication à porter un masque en France, sauf si on est malade à l'isolement chez soi, mais dans ce cas-là, les personnes sont contactées. Il y a aujourd'hui un suivi personnalisé des personnes qui rentrent de Chine et qui ont des symptômes, donc les recommandations leur sont données de façon personnalisée, mais pour la population en général, il n'y a aucune indication à porter un masque. Aujourd'hui, le masque bleu ne protège de rien. Et par ailleurs, nous avons des dizaines de millions de masques en stock en cas d'urgence de santé publique pour l'émergence d'un virus ou d'une bactérie. Donc tout cela est parfaitement géré par les autorités. Et si un jour il fallait porter un masque, nous distribuerions le masque. Il n'y a absolument aucune raison d'aller en acheter en pharmacie.
Un vaccin du type grippe A est-il oui ou non en préparation ?
Pas du tout. Le virus a été découvert il y a moins de 15 jours. Donc, pour préparer un vaccin, il faut connaître le virus, sa séquence, et ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années. La fabrication d'un vaccin est très compliquée. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas aujourd'hui d'équipe, ou en tous les cas, qui ont commencé d'ores et déjà des essais avec un vaccin sur ce virus. On est beaucoup trop tôt dans l'évolution de l'épidémie.
Qu'en est-il de notre conversation, de nos dialogues avec la Chine? Est-ce que vous n'avez aucun doute sur la transparence de la Chine à ce jour, sur les cas recensés, sur les cas de mortalité et sur la gravité de l'épidémie?
Et je crois qu'ils ont pris les choses en main. Quand on voit l'envergure des mesures qui ont été prises, je pense qu'ils gèrent très sérieusement cette épidémie. D'ailleurs, les mesures de confinement...
Très fort, mais un peu tard. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai?
Enfin, une mesure de confinement de 60 millions de personnes, c'est très fort. Ça freine, clairement, ça freine aujourd'hui la propagation de l'épidémie. Ça ne veut pas dire qu'on arrivera à l'enrayer, parce qu'on sait bien que les virus passent les frontières. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont clairement ralenti la propagation du virus avec ces mesures de confinement. Et donc, ils prennent les choses en main sérieusement.
Est-ce qu'il faut rapatrier nos ressortissants français? Certaines entreprises vont le faire. Quelle est la position du gouvernement pour ça?
Nous travaillons. Alors déjà, tous nos concitoyens à Wuhan, ils sont environ 800, sont en lien avec le consulat que nous avons là-bas, puisque nous avons des liens forts avec cette ville. Et nous travaillons aujourd'hui à une possibilité de rapatriement. Nous avons une réunion, d'ailleurs prévue chez le Premier ministre en fin d'après-midi.
En fin d'après-midi.
Pour acter des méthodes et de la façon dont nous pouvons procéder. Donc tout cela est en cours d'élaboration.
Et dans ces cas-là, s'ils reviennent, que fait-on?
C'est cela qui est en train d'être travaillé, discuté.
Avec on a les structures nécessaires, Agnès Buzyn, le nombre de lits. Combien de lits disposons-nous pour accueillir des malades potentiels?
Alors, nous avons...
Des chambres très particulières.
Non, ce sont des chambres d'isolement et nous en avons dans beaucoup d'hôpitaux. Pas dans tous les hôpitaux, mais on est capable de mettre des gens à l'isolement dans beaucoup d'hôpitaux. Et tous ces scénarios sont parfaitement préparés. C'est-à-dire qu'au ministère de la Santé, nous avons des scénarios en cas d'épidémie de différents types pour savoir combien nous mobilisons de lits, comment nous modifions nos organisations, comment nous reculons certaines interventions non urgentes, etc. Donc tout ça est parfaitement...
Le dispositif de quarantaine éventuelle aussi,
voilà,
parce que si on fait revenir des Français de Chine, ça peut se poser comme question.
Tout ça est en discussion. Est-ce que ces personnes reviennent en France ou est-ce qu'elles préfèrent rester en Chine? On voit bien qu'il y a des choix individuels qui peuvent être faits. Si elles reviennent en France, comment nous les prenons en charge? Tout cela est actuellement en train d'être travaillé par le ministère de la Santé et le ministère des Affaires étrangères. Et donc il y aura des décisions prises dans la journée.
Madame la ministre, la réunion à Matignon, donc en fin d'après-midi, quels seront les acteurs autour de la table? Faut-il s'attendre à une communication à l'issue et de quel ordre? Avec un nouveau plan aussi mis en place?
Alors, de toute façon, je l'ai dit, nous avons un point au ministère tous les jours, tous les soirs, pour faire un état des lieux de la situation et faire part de ce que nous savons, de ce qu'il reste à apprendre et de ce que nous allons mettre en place. Donc, s'il y a un rapatriement des personnes qui sont actuellement en Chine, nous expliquerons dans ce point presse en fin d'après-midi quelles seront les mesures qui seront prises.
En ce qui concerne cette réunion à Matignon, quels acteurs autour de la table? Encore une fois, est-ce qu'à l'issue, il y aura un plan et une annonce particulière?
Eh bien, nous verrons en fonction de la discussion. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une communication en fin d'après-midi à l'issue de cette réunion.
Du Premier ministre?
Je ne peux pas décider à la place du Premier ministre. Il prendra la parole s'il estime qu'il y a quelque chose de nouveau à annoncer.
Et vous nous dites qu'il peut y avoir des cas supplémentaires d'ici ce soir?
Il peut y avoir des cas supplémentaires.
Vous y attendez?
Je m'y attends, comme tous les pays d'Europe, d'ailleurs.
Sur combien de personnes, vous dites à nouveau, qui sont en
train de... À ma connaissance, ce matin, quand j'ai fait le dernier point, il y avait 5 personnes en évaluation. Mais il pourrait y en avoir 10 cet après-midi, je ne
sais
pas.
Mais ça veut dire 5 en évaluation, c'est-à-dire en suspicion également?
5 qui sont mises aujourd'hui en isolement et pour lesquelles nous avons une prise de sang qui est en train d'être testée pour le virus.
Alexis Brézé.
Une question qui peut paraître anecdotique ou pas d'ailleurs, sur l'origine du virus. On entend parler de chauves-souris, de serpents, de choses comme ça. On a une idée scientifique de ça ou non?
Aucune. Les autorités chinoises...
Toutes les histoires
chinoises...
qui courent n'ont pas de sens?
Non, enfin, pour l'instant, ce sont des rumeurs. Je rappelle qu'à chaque fois, il y a un réservoir animal dans le coronavirus. Le MERS-CoV, c'était le dromadaire. Le SRAS, c'était la civette. Et on sait que les marchés chinois ont beaucoup d'animaux sauvages, vivants.
Oui, donc c'est pas...
Et donc, le réservoir animal est le plus vraisemblable. Aujourd'hui, les Chinois ne savent toujours pas s'il s'agit de chauves-souris, d'un mammifère, d'un serpent. Et nous sommes dépendants, évidemment, des tests qu'ils font sur place sur ces animaux.
Est-ce que votre tâche n'est pas rendue plus compliquée par le fait que nous sommes dans une période grippale, grippe hivernale habituelle, et du coup qu'il est difficile de faire le distinguo entre ce coronavirus et la grippe habituelle.
Oui, c'est le cas de tout l'hémisphère nord. C'est le cas en Chine également. Ils ont l'épidémie de grippe. Donc, c'est bien la difficulté aujourd'hui. Quand une personne a de la fièvre et des symptômes respiratoires, elle peut avoir la grippe. Donc, nous avons évidemment cette difficulté et nous sommes obligés de passer par les tests. Fort heureusement, la France a d'abord un centre de référence des coronavirus qui nous a permis de mettre au point le test en moins d'une semaine. C'est probablement pour ça que nous sommes les premiers à avoir détecté des cas, parce que nous sommes opérationnels très rapidement. Et nous allons... comme il n'y a pas de cas en France de personnes atteintes du coronavirus qui n'est pas séjourné en Chine, quand on a des symptômes aujourd'hui en France, c'est qu'on a plutôt la grippe.
D'accord. Voilà.
Tous les trois cas qui sont hospitalisés sont des personnes qui ont été à Wuhan, qui ont séjourné à Wuhan.
Personne n'a attrapé la maladie en France aujourd'hui.
Et dans aucun pays. D'accord. Aujourd'hui, hors Chine, nous n'avons de cas autres que des personnes venant de Chine.
Voilà. Alors sur le profil des personnes qui ont été contaminées, on a entendu beaucoup dire hier que ce sont des personnes qui ont des fragilités à l'origine. Mais ce ne semble-t-il pas le cas des personnes qui sont hospitalisées à Bichat? Qu'en est-il? Les personnes qui ont des maladies sont les plus fragiles ou tout le monde peut être contaminé facilement?
Bon alors, ce que disent les autorités chinoises, c'est que les personnes qui décèdent de la maladie sont des personnes qui ont des fragilités médicales auparavant ou qui sont âgées. Ça, c'est ce que nous connaissons avec la grippe. La grippe touche tout le monde, mais nous avons à peu près en France chaque année 1 à 2 millions de personnes qui contractent la grippe. Environ 10 000 décès, et 85% de ces décès sont des décès chez des personnes âgées ou très malades. Et donc, ce que disent les Chinois, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui décèdent dans leurs hôpitaux du coronavirus ont le même profil, sont malades, préalablement. Voilà ce que nous savons.
Alors, juste une question, et nous allons accueillir Jules, donc le dessinateur, pour ce premier dessin dans l'émission. Tout de même, on en parlera plus longuement dans l'émission, mais il y a toujours une crise sociale importante dans les hôpitaux parisiens et en région. Est-ce que vous demandez au personnel, dans cette période un peu particulière, de lever les piquets de grève et de cesser leur mobilisation?
Alors, aujourd'hui, fort heureusement, les professionnels de santé, et comme toujours dans une crise grave, ne sont pas en train de manifester. Ils savent bien que potentiellement il y a une épidémie de grippe qui arrive et possiblement un autre virus qui va circuler ou qui pourrait circuler. Donc aujourd'hui, je sens chez les professionnels de santé une très forte mobilisation sur ces questions sanitaires. Je trouve que leur prise en charge est remarquable dans les hôpitaux qui ont pris en charge les malades, que ce soit Bichat ou le CHU de Bordeaux. Et donc moi je vois, comme toujours en cas de crise sanitaire, des professionnels qui se préoccupent plus de la santé de nos concitoyens que de faire grève. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés dans les hôpitaux, mais il n'y a pas de mouvement de grève majeur aujourd'hui dans les hôpitaux français. Il y a une insatisfaction sur la façon dont ils travaillent. Il y a des inquiétudes sur la qualité de vie au travail ou la possibilité de travailler dans de bonnes conditions. Mais nous en discutons, nous sommes en dialogue aujourd'hui avec les professionnels, je les vois régulièrement, et nous travaillons à mettre en œuvre un plan efficace qui les aide au quotidien.
On va en parler plus longuement, mais nous accueillons Jules. Bonjour Jules, donc auteur de BD, désormais scénariste officiel de Lucky Luke. Et donc, vous venez de publier, je le signale, Call of Duty, Génération Greta, un livre humoristique sur le changement climatique, un peu à la sauce fin du monde, genre Friends, si j'ai bien compris. Et c'est ce qu'on trouve dans ce livre. Alors, ça vous a inspiré, cette première partie, deux dessins, Jules, que vous allez nous présenter à l'occasion de la semaine de la BD à Angoulême qui commence jeudi prochain, je
rappelle. Absolument. J'ai fait un premier dessin. Alors, c'est Psychose, la Chine met en quarantaine 66 millions de Français. Et puis, on voit Xi Jinping qui dit au moins, on veut être sûr que les Chinois n'attrapent pas le virus de la grève. Donc, ça, c'est pas encore sûr. Mais c'est vrai que c'est rare en Chine. Et un autre, jusqu'où ira le virus? On apprend que le coronavirus a décidé de se présenter au municipal à Paris. Alors peut-être que ça vous concerne aussi un peu indirectement. Donc c'est les mutations un peu monstrueuses qu'il peut y avoir.
Et le virus, c'est un virus de pouvoir aussi?
Ah oui, alors voilà, moi j'avais une question du coup, parce que j'ai le droit de vous poser deux questions.
Cette fois-ci, on verra la deuxième tout à l'heure, très rapidement.
Oui, une question cette fois-ci. Et du coup, quand vous êtes arrivé comme ministre, tout le monde avait beaucoup d'espoir, parce que vous étiez médecin, vous veniez du Sérail, vous aviez travaillé à l'hôpital, donc tout le monde, l'hôpital a toujours pensé que vous pourriez faire des choses pour lui. Et puis aujourd'hui, on se retrouve dans une crise, on en parlera, qui est quand même considérable. Et en fin de compte, on parle beaucoup du coronavirus. Et il y a une question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un autre virus qui est beaucoup beaucoup plus virulent finalement, un petit peu plus pernicieux, qui a touché d'autres que vous, notamment dans le gouvernement auparavant. C'est précisément le virus du pouvoir et de la politique. Alors, on doit faire sans arrêt des concessions, il y a des arbitrages qui ne sont pas forcément en votre faveur. On est obligé de changer un petit peu de fusil d'épaule sur toutes ces décisions qu'on attendait de votre part et qu'il n'y a pas eu. Est-ce que vous êtes malade ?
Moi, le virus que j'ai, en tous les cas, c'est celui de l'action. Objectivement, je suis en action depuis 2 ans pour transformer le système de santé français, dont je sais qu'il est malade. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté de travailler sur ces sujets-là, parce que je le connais de l'intérieur et je sais qu'il ne répond plus aux besoins des Français. Donc ça fait 2 ans que je travaille à transformer profondément à la fois l'organisation de la médecine libérale et les hôpitaux. Et là, j'ai donné les moyens, on aura l'occasion d'en parler, donc on en parle tout à l'heure.
C'est la pause, ce grand jury. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie du grand jury d'Agnès Buzyn. À tout de suite.
Grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, la ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Amélie Carrouer de TF1 LCI, Alexis Brézé du Figaro qui vous pose la première question de cette seconde partie. Avant d'en venir aux retraites, nous parlons de propos tenus par le président de la République à son retour d'Israël. Alexis.
Oui, parce que le président de la République, dans l'avion qu'il a ramené d'Israël, sans tracer un signe d'égalité entre d'une part la Shoah et d'autre part la guerre d'Algérie, a envisagé de prendre une mesure mémorielle un peu analogue que celle que Jacques Chirac avait prise à l'époque du Veldiv concernant l'action du régime de Vichy. Est-ce que vous pensez quelle pourrait être cette mesure ? Est-ce qu'il faut faire repentance sur la guerre d'Algérie ?
Moi, je voudrais d'abord insister sur la première partie de votre phrase, parce qu'on voit comment ça a été détourné. À aucun moment, et vous le dites vous-même, le président de la République n'a fait d'analogie entre la Shoah et la guerre d'Algérie, parce qu'on a vu quand même sur les réseaux sociaux et certains journalistes s'emparer de cette question. Il n'y a aucune analogie, le président de la République dit simplement que les présidents de la République, à un moment, peuvent réfléchir à la mémoire collective et peuvent prendre des décisions.
Et donc, moi, ce moment de la mémoire, c'est la guerre d'Algérie.
Mais je le laisse, évidemment, prendre les décisions qu'il souhaitera. En tous les cas, moi, je tiens à insister sur le fait que le président de la République revenait d'Israël pour un devoir mémoriel sur la libération du camp d'Auschwitz, qu'il a pris la parole et qu'il a fait un très beau discours sur la mémoire et sur le fait que l'antisémitisme n'était pas un problème des Juifs, mais un problème de la société, et que souvent l'antisémitisme traduisait la haine de l'autre qui s'installait. Donc je trouve que ces propos-là mériteraient d'être retenus et diffusés avant de diffuser une polémique sur...
Est-ce que vous pensez qu'il faut faire repentance sur la guerre d'Algérie, dire quelque chose ?
Je laisserai le président de la République prendre ses...
Alors, on attendra la décision du président de la République. Vous parliez en effet de la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz, c'était il y a 75 ans. Il y a eu un tweet de Marine Le Pen qui, dans ce tweet, dit-elle, commémoration de la libération du camp d'Auschwitz. Voilà ce qu'elle écrit. Il y a 75 ans, les Alliés mettaient fin à la barbarie génocidaire du régime nazi. Respect aux victimes et à leurs familles, signé Marine Le Pen. Que vous inspire ce tweet qui a été largement commenté ?
Elle essaye évidemment d'avoir une stature nationale, nous le savons. Mon opinion sur le parti d'où vient Madame Le Pen et l'historique de ce parti n'a pas changé. L'histoire de ce parti, c'est un parti qui a toujours été en faveur de la collaboration avec des personnes qui l'ont fondé, qui étaient des collaborateurs. Et donc je trouve que ce parti n'a pas suffisamment pris ses distances avec l'extrême droite, voire certains mouvements néo-nazis. Donc je continue de penser la même chose concernant Madame Le Pen. Je n'aime pas en fait qu'elle s'exprime sur ces questions-là, car je pense que le Front National n'a pas terminé sa mue face à l'extrême droite européenne.
Il est toujours noyauté par l'antisémitisme, et il exprime toujours l'antisémitisme pour vous.
Je ne le dis pas de ses dirigeants, mais je le dis de certaines personnes qui travaillent dans ce parti, qui sont proches de ce parti, qui font partie du maintien de l'ordre de ce parti, qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment éloignés de ce que nous connaissons de pire en Europe, dans d'autres pays. En tous les cas, il y a des liens. Et je pense que ce parti-là et Madame Le Pen ne sont pas les bienvenus quand ils parlent du nazisme ou de l'antisémitisme.
On passe à un sujet, bien évidemment, que nous avons esquissé en début de première partie, les retraites. Amélie Carouère.
Madame la ministre, 2 ans de travail et le Conseil d'État a rendu un avis. Projection financière lacunaire, différence de traitement injustifiée, caractère universel qui est remis en question. Ce Conseil d'État parle même d'insincérité. Avez-vous bâclé votre réforme? Allez-vous la remettre en question? Et allez-vous au moins un peu la réécrire?
Alors, il y a une partie de l'écriture que nous assumons qui se fera pendant que le projet de loi fait ses navettes parlementaires, puisque nous avons décidé de ne pas tout mettre dans le dur dans la loi, pour laisser le temps à la concertation qui se termine sur quelques sujets, notamment sur les phases de transition, qui vont être longues à décrire pour tous les métiers et pour tous les régimes, et puis, vous le savez, sur le financement, puisqu'il y a une conférence de financeurs. Il y a des parties qui ne sont pas rédigés dans la loi. Moi, je comprends quelque part la frustration du Conseil d'État de ne pas avoir l'entièreté des mesures. Pour autant, c'est un choix assumé du gouvernement que d'écrire au fur et à mesure que les concertations aboutissent et de mettre dans le dur au fur et à mesure des choses.
Même sur ce qui est écrit, Madame la Ministre, par exemple, le Conseil d'État ne voit pas le caractère universel de votre loi.
Ça dépend comment on entend universel. Si on pense que universel veut dire totalement égalitaire, il y a effectivement des différences qui peuvent exister entre certaines professions sur la pénibilité, par exemple. Donc nous savons très bien que ce que nous souhaitons, c'est un régime où tous les Français cotisent et sont solidaires les uns des autres. Et l'universalité, quand on prend cette définition, c'est-à-dire que tous les Français sont traités à la même enseigne et sont solidaires les uns des autres sans aucune exception, ce régime est universel. Après, il est équitable, c'est-à-dire qu'il prend en compte certaines différences dans les métiers.
Mais le Conseil d'État dit que ces différences sont injustifiées. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que le Conseil constitutionnel, quand il sera saisi à l'issue, une fois que la loi sera votée, dise la même chose et à ce moment-là, dise la loi est inconstitutionnelle parce que ces différences de traitement dont vous parlez, elles sont injustifiées.
Écoutez, tous les Français peuvent comprendre que nous ne souhaitons pas une armée de métiers avec des militaires sur des fronts d'opérations extérieures de 60 ans. Donc évidemment, il y a un régime particulier pour... Ce n'est pas un régime d'ailleurs, il y a des dispositions particulières, mais ils font partie du système universel. Ils cotisent dans la même caisse, ils ont les mêmes droits, simplement ils ont des dispositions particulières pour partir plus tôt, parce que quand on...
Il y a un risque d'inconstitutionnalité après cet avis du Conseil d'État.
Verrons ce que le Conseil constitutionnel comprend dans l'universalité, ce que souhaitait le président de la République, c'est-à-dire un système où nous cotisons tous ensemble, que nous sommes solidaires indépendamment des professions ou des dynamiques de profession pour que ce qui est arrivé aux agriculteurs n'arrive plus jamais. En réalité, pourquoi les agriculteurs ont des petites retraites? C'est parce que le nombre d'agriculteurs a tellement diminué en France aujourd'hui que leur régime spécial n'est plus à l'équilibre et qu'ils ne sont plus capables, que les actifs ne sont plus capables de payer les pensions. Donc l'universalité, c'est nous sommes tous traités à la même enseigne, dans la même caisse.
Quand vous entendez quand même le Conseil dire ça, vous vous dites pas, c'est quand même une des plus hautes instances de ce pays. On a raté quelque chose?
J'aurais préféré évidemment un autre avis du Conseil d'État. J'espère que nous allons convaincre le Conseil constitutionnel à l'issue des débats parlementaires et de l'enrichissement parlementaire de la loi qu'il s'agit bien d'un système universel. Universel et équitable. Équitable veut dire qu'on prend en compte quand même des spécificités, notamment les métiers régaliens. Je rappelle que quand on est militaire, quand on est policier, actif, c'est-à-dire sur des terrains qu'on prend des risques pour sa vie, pour sa santé, il est évident qu'on n'a pas exactement la même capacité à travailler jusqu'à 62 ans que le reste de la population. Heureusement que l'équité, c'est cela. L'équité n'est pas l'égalité absolue.
Est-ce que vous nous dites quand même aujourd'hui que, quelles que soient les conclusions de la réunion de financement qui doit se tenir à partir de vendredi avec les partenaires sociaux, vous ne remettrez pas l'âge pivot à 64 ans dans la loi?
Alors, la conférence de financement doit nous faire une proposition pour que le système soit équilibré en 2027, pour que le nouveau système parte sans dette. Et si la conférence de financement n'aboutit pas à un consensus entre les partenaires sociaux, il est prévu que le gouvernement reprenne la main et fasse des propositions.
Mais est-ce que ce serait le retour de l'âge pivot à 64 ans?
Il peut y avoir l'âge pivot avec peut-être d'autres mesures à l'issue. Nous le remettrons probablement, mais peut-être que nous tiendrons compte aussi des discussions.
Ah, vous le remettrez probablement.
Si
si les partenaires sociaux ne trouvent pas un accord.
Et donc, ce que je pense par contre, c'est que les discussions des partenaires sociaux vont peut-être nous permettre d'enrichir nous-mêmes notre réflexion.
Ça vous paraît envisageable de le remettre? Parce qu'après toutes ces batailles, le fait de l'avoir tiré, ça paraît quand même compliqué de dire, bah, on le remet puisque vous n'êtes pas mis d'accord.
Nous avons dit en tous les cas que le gouvernement ne pourrait pas accepter que cette réforme voit le jour en commençant par des milliards de dettes laissées à nos enfants.
Bon, au moins c'est
donc, nous reprendrons la main avec une mesure qui peut-être comprendra l'âge pivot. En tous les cas, des mesures d'âge, c'est très probable. Et peut-être d'autres choses, parce que je pense que la discussion des partenaires sociaux va nous alimenter, va nous enrichir, et qu'ils auront peut-être des idées, même s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, qui vont se retrouver dans l'ordonnance si le gouvernement est obligé, évidemment, de reprendre la main.
Autre dossier, on en parlait également, eh bien, la crise dans les hôpitaux, Amélie Carouer.
Une phrase d'un professeur de diabétologue, à la Pitié-Salpêtrière. En traversant mon hôpital aujourd'hui, je me suis souvenu de l'honneur que c'était devenu d'être chef de service, sauf qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de venir à un enterrement. Il vous demande un Grenelle de la santé. Il y a eu de multiples plans sur la table. La grogne, elle est toujours là. Pourquoi ne pas le faire?
En réalité, le constat, il est clair. Les Grenelles, ils ont un intérêt quand on a besoin de se mettre d'accord sur les constats et sur les leviers. Aujourd'hui, un texte de loi a été voté, Ma Santé 2022, et il a été voté en juillet. Il réorganise la médecine française, et notamment la médecine libérale, pour décharger les hôpitaux. L'objectif de ce plan, c'était vraiment de permettre l'accès aux soins dans tous les territoires et se rapprocher des Français et des besoins. Ce texte vient d'être voté, les décrets sont en train d'être écrits et il a fait l'objet de très nombreuses concertations. Il y a eu des dizaines de groupes de travail, il y a eu des rapports. Donc on ne va pas recommencer à faire des constats. Nous savons maintenant ce qu'il faut faire. Il faut réarmer la médecine de ville, ce qu'on appelle la médecine libérale, pour que dans les campagnes, dans les banlieues, les Français accèdent à des soins et ne soient pas obligés d'arriver aux urgences. Et il faut remettre des moyens à l'hôpital et changer la gouvernance des hôpitaux. Aujourd'hui, nous avons une mission en cours qui va me rendre son rapport en mars pour changer la gouvernance des hôpitaux, redonner plus de place à la gouvernance médicale, c'est ce que souhaitent les médecins. Et donc, on va arrêter de discuter pendant des heures à faire des états généraux, alors que ce qui compte aujourd'hui, c'est l'action. Or, nous avons commencé à mettre en œuvre un plan d'action pour l'hôpital. Il y a eu 150 millions d'euros qui ont été délivrés aux hôpitaux au mois de janvier. Chaque hôpital s'est vu notifier ses financements pour acheter du matériel, du quotidien. La PHP vient d'avoir, par exemple, 12 millions d'euros au mois de janvier pour acheter du matériel pour toutes les équipes. Il faut que les équipes s'en emparent. Il y a des primes qui vont être mises en œuvre dès le 31 janvier pour 200 000 personnels soignants. Et puis enfin, nous allons reprendre la dette et la reprise de la dette va redonner en trésorerie entre 800 millions et 1 milliard d'euros par an aux hôpitaux publics.
Est-ce que vous n'êtes pas fragilisé politiquement par cette crise qui dure dans les hôpitaux? Est-ce que vous pouvez bien rester à votre poste, même à l'issue du municipal, puisqu'on parle d'un remaniement possible? Est-ce que bien votre crédit politique n'est pas affecté, entamé?
Écoutez, il est évident que les Français me demandent de résoudre les crises. Je suis en train de les résoudre. Je suis en train de travailler au quotidien avec ce qu'on appelle les conférences, c'est-à-dire les directeurs d'hôpitaux, les présidents des équipes médicales, les présidents des CME, qu'on appelle conseils médicaux d'établissement. Je suis en train de travailler avec la Fédération hospitalière de France. Nous nous voyons presque toutes les semaines pour mettre en œuvre un plan précis. Et aujourd'hui, il y a encore des personnes qui, évidemment, expliquent à quel point c'est difficile de travailler à l'hôpital. Je les entends. Nous sommes d'accord. C'est difficile. Je suis là pour les accompagner. Mais je leur ai proposé de les revoir dans un mois ou deux, une fois que le plan aura débuté de se déployer partout dans chaque hôpital.
Laisser une chance à votre plan, et donc vous voulez rester jusqu'à la fin du quinquennat pour votre mission.
C'est pas ce que je dis, c'est le choix du président de la République et du Premier ministre. Aujourd'hui, les soignants ne demandent pas ma démission, ils demandent des moyens. Ils savent très bien que je suis à leur côté pour trouver des solutions. Ils savent bien que je travaille pour l'hôpital public. Ils voient le plan. Alors, certains estiment que c'est insuffisant, mais déjà mettons en œuvre ce que nous avons posé sur la table, c'est-à-dire des budgets
c'est
en hausse,
réponse.
Considérablement en hausse, comme jamais depuis 10 ans, et mettons en place toutes les mesures annoncées avant de dire que ça ne suffit pas.
C'est l'heure de Question Express.
Le grand jury, Question Express.
Agnès Buzyn, pour ou contre reconnaître la filiation des enfants nés d'une GPA à l'étranger au nom de leurs droits fondamentaux? C'est ce que réclame ce matin même dans une tribune Jean-Louis Touraine, 10 députés de La République En Marche et apparentés.
Alors, vous le savez, on porte cette loi de bioéthique à trois ministres. Nicole Belloubet pour la partie code civil et notamment filiation. Frédéric Vidal, que je salue, qui est là sur la partie recherche. Et puis, moi, sur l'ensemble des mesures médicales. Je dois dire qu'aujourd'hui, je suis très favorable à ce que des enfants nés par GPA à l'étranger puissent être sécurisés. Mmh. Parce que les enfants doivent être sécurisés. Le gouvernement a fait une proposition médiane entre des gens qui voudraient une transcription automatique, parce que nous estimons que c'est une façon de légaliser la GPA à l'étranger, or nous sommes contre la GPA, et ce que propose le groupe LR, notamment au Sénat, qui est quelque chose de très restrictif et qui en fait insécurise les enfants.
Donc c'est contre la filiation automatique.
Donc nous ne sommes pas pour la filiation automatique telle que l'a proposée la Cour récemment dans un arrêt.
La Cour de cassation
l'a proposée dans un arrêt récent. Mmh. Nous voulons quelque chose qui montre tout de même qu'un enfant né par GPA doit faire une démarche, en tous les cas les parents doivent faire une démarche pour sécuriser l'enfant, avec un passage via l'adoption par le père qui n'est pas le père biologique. Et en gros, nous sommes pris en tenaille entre des gens très libéraux qui veulent quelque part faciliter la GPA et des gens très restrictifs qui insécurisent les enfants. Nous voulons une position médiane qui sécurise les enfants sans faciliter pour autant la GPA à l'étranger.
Pour ou contre Agnès Buzyn, augmenter l'amende pour jet de mégot de 68 à 200 euros à Paris, comme c'est le cas à Bruxelles?
Vous me connaissez sur le tabac, je suis toujours...
Donc vous êtes pour. Vous êtes pour. Bon, oui, je l'ai dit pour vous, mais vous semblez être pour.
Mais plus pour des raisons écologiques. C'est, franchement, c'est dégueulasse. Excusez-moi, c'est
alors,
de voir tous ces mégots
traîner. Est-ce que vous voulez également pour ou contre augmenter le prix du tabac à rouler en vogue chez les jeunes? Est-ce que vous
voulez... Oui, le tabac à rouler doit progressivement avoir les mêmes prix, le même coût pour les jeunes, parce qu'il ne faut pas que les jeunes se reportent des cigarettes vers le tabac
à rouler. Donc vous voulez augmenter ce...
Donc il faudra progressivement que le tabac à rouler rejoigne le prix des cigarettes.
Quand?
Ça, c'est
d'ici la fin du quinquennat.
Oui, d'ici la fin du quinquennat.
Pour ou contre Agnès Buzyn, la candidature d'Agnès Buzyn au municipal à Paris?
Je vais vous parler de Paris parce que j'entends beaucoup de choses. Vous me laissez peut-être une minute pour... voilà. D'abord, Paris, c'est ma ville. J'y suis née, j'y ai vécu pratiquement toute ma vie. Elle mérite un beau projet. Et franchement, je ne suis pas satisfaite aujourd'hui de la gestion de la ville. Deuxièmement, le projet de Benjamin Griveaux est un bon projet. Il a énormément travaillé, il est légitime, il
le
a des propositions très concrètes. Et donc, j'ai envie de rejoindre la campagne de Benjamin Griveaux. Et j'ai envie, parce que je l'ai toujours dit, que j'avais envie de me présenter à une élection. Voilà.
Donc, vous allez vous présenter?
Aujourd'hui, nous sommes en discussion avec Benjamin Griveaux, mais je mets un mais. C'est qu'aujourd'hui, mon agenda, vous l'avez remarqué que ce soit ces dernières semaines...
C'est compatible alors.
Oui, donc c'est en pause. Aujourd'hui, c'est en pause.
Jusqu'au 27 février en même temps, c'est
vrai. Nous avons jusqu'au 27 février.
Mais vous souhaitez, Agnès Buzyn, vous souhaitez être candidate dans le 15e arrondissement ou le 6e arrondissement.
J'ai envie de m'engager pour Paris. J'ai des choses à apporter, notamment sur le champ des solidarités. J'ai plein d'idées. Sur le champ de la santé, de l'accès aux soins, j'ai plein d'idées. Je pense que je peux être utile à cette ville que je connais extrêmement bien.
Au 15e ou au
6e? Et donc tout ça est en discussion avec Benjamin. Mais aujourd'hui, quelque part, j'ai mis une pause parce que, comme vous l'avez remarqué, entre l'hôpital, les retraites, mais surtout le coronavirus, je préfère être concentrée sur mes dossiers ministériels.
Si le coronavirus, ce que tout le monde espère, ça se tasse, à ce moment-là, vous allez à
Paris. Nous verrons dans 15 jours comment vont les choses.
Et vous nous confirmez que le président de la République a rencontré Cédric Villani aujourd'hui ou demain, aujourd'hui même?
Je l'ai vu, comme vous, dans la presse.
Oui, donc vous ne savez pas. Est-ce qu'il faut exclure Cédric Villani de La République En Marche?
Je pense que ça, c'est une décision que La République En Marche
vous,
doit prendre.
Et vous, qu'est-ce que vous pensez?
Moi, j'aime beaucoup Cédric Villani. Mmh. C'est un homme, évidemment...
Enfin, tout le monde l'aime bien chez vous, mais...
Non, mais je pense qu'on le respecte, évidemment, en tant que scientifique. Mmh. Mais là, je trouve que ça entraîne une cacophonie qui nuit, quelque part, à la capacité, à la lisibilité de La République En Marche d'être efficace pour Paris et notamment de remporter la mairie. Je trouve que ça apporte des voix potentielles aux oppositions en général. Et donc, moi, je souhaiterais que Cédric Villani rejoigne la campagne de Benjamin Griveaux.
C'est l'heure de Questions Nettes.
Le grand jury, Questions Nettes.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous, bonjour Agnès Buzyn. Bonjour. Alors, sur le coronavirus, justement, vous venez d'en parler. Les internautes ont noté que vous n'avez pas répondu à une question au début de cette émission sur le nombre de chambres de confinement. et donc il vous la repose avec le hashtag Le Grand Jury. Combien de chambres de confinement sécurisées existe-t-il précisément dans les hôpitaux français pour justement faire, face à des cas de coronavirus?
Donc, en fait, nous n'avons pas forcément besoin de chambres de confinement spécifiques, ce qu'on appelle des chambres à pression positive ou pression négative. Ces chambres existent dans tous les services de réanimation, dans les services d'infectiologie, mais elles sont réservées à des virus particuliers. Aujourd'hui, nous avons choisi de mettre les premiers malades dans ces chambres-là, en attendant d'en connaître plus sur le virus. En réalité, nous apprenons chaque jour sa contagiosité.
Donc, c'est pas nécessaire pour...
Mais ça n'est pas forcément nécessaire. Vous avez plein de moyens de mettre des gens à l'isolement sans forcément les mettre dans des chambres spéciales. Donc, tout cela est parfaitement modélisé. Il n'y a pas un impératif de chambre à pression positive ou négative selon les cas.
Autre question.
Donc, voilà. Mais il y en a dans tous les hôpitaux.
Ils ont leur réponse précise. Autre question, Marie-Pierre.
Oui, alors dans l'Isère, Mila, une adolescente de 16 ans, a été harcelée sur les réseaux sociaux parce que dans une vidéo, elle critique et elle insulte l'islam avec virulence. Et en réponse, elle a reçu un torrent de messages haineux, des menaces de mort et de viol. Il y a des personnalités politiques comme Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan qui la soutiennent avec le hashtag « Je suis Mila ». Et le parquet, lui, a ouvert deux enquêtes. Une pour identifier les auteurs des menaces de mort et une autre contre Mila pour provocation à la haine raciale. Qu'est-ce qui vous choque en premier? Les propos de cette jeune adolescente ou alors le harcèlement dont elle a été victime?
Je veux dire, moi, je suis toujours choquée par les propos violents et tout ce qui incite à la haine. Aujourd'hui, je pense que c'est le mal qui ronge notre société avec cette communication 2.0 sur Internet. Donc, moi, je veux qu'on en revienne au droit. Soit les propos de cette adolescente, et je suis désolée, je ne les ai pas écoutés. Il se trouve qu'en ce moment, j'ai eu pas mal de dossiers particuliers à gérer, donc je ne les ai pas écoutés. Soit les propos de cette jeune femme sont contre la loi, contreviennent à la loi. Dans ce cas-là... il y a des choses à faire. Soit ils ne contreviennent pas à la loi, et par contre, le cyberharcèlement, ça, pour le coup, ça contrevient à la loi. Et là, il faut faire des choses contre le cyberharcèlement dont elle fait l'objet. Moi, je me réfère à ce qui est légal, à ce qui n'est pas légal. C'est le rôle de l'État.
Alors, on en arrive au dessin, dernier dessin de cette émission avec Jules qui nous rejoint, donc le dessinateur qui sera notamment présent à Angoulême, au Festival de la BD. 30 secondes, Jules, s'il vous plaît, pour nous présenter ce deuxième dessin de la, pour la ministre.
Alors, c'est toujours sur la contestation sociale au sein des hôpitaux. En partant de coronavirus, malgré le coronavirus, la mobilisation de l'hôpital ne faiblit pas. Puis on voit tous les soignants qui manifestent, avec sous une banderole, tous ensemble, mais tous, ça s'écrit TOU, 2SE, évidemment.
Est-ce que vous lisez des BD, Agnès Buzyn, pour vous détendre de temps en temps?
Je lis peu de romans, peu de BD, je lis essentiellement des essais. J'essaye de m'instruire en fait. Et je trouve votre dessin extrêmement drôle. Si vous me permettez de l'avoir, je pense que je le mettrai dans mon bureau.
Si vous me l'autorisez.
Jules vous l'offrira. Merci Jules. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Madame la Ministre d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Très belle semaine, à la semaine prochaine.